Le Mag Écho, Bastien Lallier.
Et bonjour à toutes et à tous. C'est la dernière de l'année avant la trêve et les fêtes, l'heure des premiers bilans d'un exercice 2023 contrasté sur le plan économique. Après un premier semestre encourageant, marqué par une activité soutenue, les six mois qui ont suivi se sont avérés moins enthousiasmants. Au niveau national, un léger recul de la croissance a été enregistré au troisième trimestre et les prévisions concernant le quatrième n'annoncent qu'une hausse très modeste. À l'OCDE, l'INSEE, la Banque de France, de nombreux observateurs ont revu leurs estimations à la baisse. Tous indiquent que l'économie française est moins dynamique qu'espérée en cette fin d'année. Il y a malgré tout des motifs d'espoir. De nombreuses entreprises, et heureusement, continuent de se développer et d'investir malgré l'inflation, l'explosion des factures énergétiques, les difficultés de recrutement ou encore l'instabilité géopolitique. Mieux, un rebond global est attendu à partir du début d'année prochaine. Alors comment les entrepreneurs ont-ils vécu ces derniers mois? Comment se projettent-ils sur l'année à venir malgré les nombreuses incertitudes qui demeurent? Quels sont les principaux défis qui les attendent? Durant cette émission, nous allons tenter de prendre le pouls de l'économie angevine en donnant la parole à plusieurs acteurs de terrain représentant l'industrie, le commerce, le textile ou encore le BTP. Vous écoutez le Mag Écho, nous sommes ensemble pour une heure d'information.
Le Mag Écho, en partenariat avec le Journal des entreprises.
Émission spéciale que j'ai le plaisir de co-animer avec Olivier Amard du Journal des entreprises. Bonjour Olivier.
Bonjour Bastien.
Alors l'idée de cette émission, c'est de prendre le pouls donc de notre économie locale, de faire un premier bilan de cette année 2023 à travers les témoignages d'acteurs engagés sur notre territoire. Ils sont 5 à avoir accepté notre invitation ce mercredi. Je vous laisse le soin de nous les présenter, Olivier.
Oui, tout d'abord Isabelle Bernard, bonjour. Dirigeante de la société TMA Menuiserie, fabricant et poseur de menuiserie intérieure et extérieure, implantée à Beaucouzé. Mathieu Billard, bonjour.
Bonjour.
Président de la Chambre de commerce et d'industrie de Maine-et-Loire et entrepreneur aussi, patron de Socrate, éditeur de logiciels, et d'Apcel, fabricant de plaques, feuilles, tubes et profilés en matière plastique. Laurent Vandenborg, bonjour.
Bonjour.
Délégué régional général de Mode Grand Ouest, un groupement d'une centaine d'entreprises, notamment dans les Mauges et le Choletais, entre autres, dans la région plutôt, spécialisé dans les filières du textile, de la mode et de la maroquinerie. Et Maxime Turc, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes depuis récemment délégué général de l'UIMM, l'Union des industries des métiers de la métallurgie de Maine-et-Loire.
Et notre cinquième invité, c'est Flavienne Chadelot. Bonjour.
Bonjour.
Directrice départementale de la Banque de France en Maine-et-Loire. C'est avec vous qu'on va introduire cette émission. La Banque de France réalise régulièrement des enquêtes de conjoncture. La prochaine, je crois, sera d'ailleurs publiée au mois de janvier, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Au niveau national, votre institution a dévoilé récemment, je crois que c'était hier, ses dernières prévisions pour 2024, 2025 et même 2026. Avant d'évoquer ce qui nous attend dans les prochains mois, comment les entreprises, de votre point de vue, ont-elles traversé cette année 2023?
Alors, de ce point de vue, il y a quand même, comme vous le disiez en introduction, hein, il y a eu deux phases dans cette année de 2023. Néanmoins, globalement, on constate qu'après, par exemple, pour les entreprises, la baisse des marges qui a été constatée en 2022, globalement en 2023, ces marges se sont reconstituées pour atteindre des niveaux moyens qui sont eux-mêmes supérieurs à celles qui existaient en 2018 ou 2019. Alors je mets à part la période évidemment du Covid où il y avait des aides et qui ont un peu perturbé les ratios, mais en tout état de cause, ces entreprises, alors c'est globalement, hein, évidemment il y a des entreprises qui souffrent plus que d'autres, des secteurs qui sont plus en difficulté que d'autres, et il faut être très attentif à ces sujets-là. Mais du point de vue des marges, voilà, elles sont quand même très très bonnes par rapport à ce qu'on aurait pu craindre. Et de ce fait, en parallèle, l'investissement des entreprises est toujours assez soutenu.
Comment est-ce qu'on explique ces deux périodes dans l'année, hein, un premier semestre plutôt encourageant, un deuxième semestre un peu plus difficile?
Alors, le premier semestre a été, je dirais, exceptionnellement bon. On était encore sur la période de rebond de 2021-22 et il a été excessivement bon, notamment dans la région, par des exportations et des grandes entreprises qui sont allées à l'exportation, qui ont livré des grosses commandes. Bon, évidemment, il y a les chantiers navals, il y a Airbus qui a été extrêmement porteur. Pour d'autres différentes raisons, hein, l'aéronautique, pour des raisons civiles, avec la reprise de l'aéronautique civile, mais aussi de l'aéronautique militaire. Et donc, après, on était plus sur un trend de fond, hors ces grandes exceptions, je dirais, du premier semestre.
Et à quoi il faut s'attendre, Flavienne Chadelot, sur les mois qui viennent? J'imagine que vous avez déjà des premiers retours des entrepreneurs.
Alors, on commence même l'enquête mensuelle qui sera sur le mois de décembre, publiée en janvier. Mais pour ce qui est de celle qui a été publiée très récemment, eh bien, au niveau de la région et quelque part le Maine-et-Loire est une micro-région. On est tout à fait représentatif des Pays de la Loire. L'industrie s'était légèrement contractée, mais tout à fait de la même manière que la moyenne française, avec des secteurs qui étaient effectivement un petit peu plus en difficulté. Le matériel de transport, hors automobile, et là, c'est lié à encore des difficultés d'approvisionnement. Vous en avez parlé, oui, sur certains produits très spécifiques. Et puis, on a un représentant, mais la filière du textile habillement est quand même en difficulté. Et puis, de l'autre côté, on avait quand même des secteurs très positifs. L'agroalimentaire, qui a une reprise. La métallurgie et les produits électroniques.
Alors, je voyais Laurent Vandenborg qui réagissait, qui faisait des mimiques à votre, à votre petite phrase. Laurent, vous voulez peut-être réagir par rapport à ce que dit Flavienne. Comment se porte le secteur et surtout le moral des entrepreneurs dans le secteur du textile et de l'habillement ?
Alors, si je regarde d'abord les données froidement macroéconomiques, plus de 1000 emplois créés, 13 000 emplois directs, j'ai envie de dire, quand la situation est toujours au maintien de recrutement, ce qui est le cas...
Parlez bien en face du micro, s'il vous plaît.
Je disais, quand la situation est toujours au maintien de recrutement, ce qui est le cas, puisque nos entreprises recherchent toujours 1500 personnes par an, et c'est encore confirmé par la dernière enquête interindustrielle.
C'est bon signe.
C'est plutôt, en tout cas, un signe de morale encourageant, j'allais dire, d'une activité qui se poursuit. Alors, effectivement, vous n'avez pas complètement tort non plus, mais c'est important de bien distinguer deux compartiments très différents dont on ne peut pas faire une moyenne. Il y a le secteur marchand et il y a le secteur industriel. Le secteur marchand est impacté, évidemment, par les phénomènes d'inflation, par un phénomène de morale générale, et il faut savoir que l'habillement est toujours le premier secteur impacté par les arbitrages du panier de consommation. Sur le dernier classement que j'ai eu cette semaine, c'est encore le cas. C'est le plus gros recul est au secteur marchand. C'est moins 25, moins 30, donc c'est énorme par rapport à des entreprises qui ont un modèle économique, personne ne peut encaisser à moins 30 avec des marges qui sont très étroite dans le secteur marchand. Donc, sur cet aspect-là, vous n'avez pas tort. On a vu beaucoup de marques tomber. Malheureusement, il y en aura encore qui tomberont. C'est vrai aussi que l'impact du coût du loyer, on n'en parle jamais, mais de la partie immobilière et foncière dans le modèle économique de la vente en boutique, par exemple, a évidemment des phénomènes importants. Le secteur industriel, par contre, se porte très bien. Avec, malgré la situation géopolitique complexe, un secteur luxe, un positionnement luxe qui continue de driver le secteur, une maroquinerie toujours en fort recrutement et un secteur habillement qui cherche toujours autant de couturières. 1200 couturières et maroquiniers sont toujours activement recherchés.
Et ça ne s'est pas fini. Et je pense qu'il y a beaucoup de secteurs qui recherchent encore de la main d'œuvre. Avant de rebondir sur le bilan économique propre, un mot sur le moral de nos chefs d'entreprise qui traversent les crises successives, les unes après les autres. On les dit fatigués. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que c'est encore un message que vous entendez, Mathieu Billard, Maxime Turc, Mathieu d'abord ?
Alors, on a fait notre enquête CCI qui était au mois de septembre. Mmh. Et quand on regarde le moral, encore une fois, de manière générale, il est plutôt stable, voire légèrement supérieur. Ce qui n'allait pas forcément de soi.
Ouais.
Ce qui n'allait pas forcément de soi, mais là encore, on est sur quelque chose de macro. Et je crois que la difficulté aujourd'hui, c'est de bien regarder secteur d'activité par secteur d'activité. Et là, on voit des très grandes disparités. On parlait du commerce. Ouais. Je crois que le commerce souffre beaucoup et va souffrir encore sur les prochains mois. La restauration souffre aussi pas mal avec deux niveaux de restauration. Certains qui se sont pas changés depuis le Covid et qui ont toujours beaucoup, beaucoup de mal à recruter et d'autres qui ont évolué dans leur modèle. Et puis dans les industries, c'est pareil, il faut regarder secteur d'activité par secteur d'activité. On voit que l'industrie du loisir aussi commence à un petit peu plus s'essouffler qu'elle avait depuis quelques temps. Et puis les tailles d'entreprise, quand on parle des marges, on regarde des très très gros qui ont pris des énormes marges. Maintenant sur les PME, qui est l'essence de notre territoire, je pense que c'est un petit peu moins vrai.
Maxime Turc, on a au début du Covid, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ont dit il y a une nouveauté, c'est qu'on navigue à vue, on n'a pas de visibilité. Est-ce que après 4 années, ça va bientôt faire 4 ans, la crise du Covid, en mars prochain, est-ce qu'on a toujours ce sentiment de manque de visibilité avec les crises qui se sont succédées?
On voit clairement, et c'est tout à fait ce que vous dites, c'est qu'il y a un manque de visibilité parce qu'il y a une accélération à chaque fois en permanence des crises et des répétitions des crises. On sort à peine effectivement de la crise de l'énergie, de la crise des composants dans ce qui concerne l'électronique. Et là, on va rentrer prochainement, mais je vais laisser Madame Bernard en parler mieux que moi, probablement un peu dans la crise du bâtiment neuf, qui est déjà en cours et qui impacte forcément les entreprises industrielles qui travaillent beaucoup avec le bâtiment. Alors on a d'autres secteurs qui, et Mathieu le disait très bien, qui se portent super bien et qui possiblement poussent les entreprises dans leur activité, l'aéronautique, la défense, l'auto. On voit que l'automobile étonnamment se maintient globalement, ou en tout cas est en pente, je veux dire, très de décélération progressive, ce qui permet aux industriels de s'adapter. Et on voit donc qu'il y a toujours des marchés qui se portent très bien et qui permettent de compenser ceux qui baissent. Néanmoins, ça crée de l'incertitude, ça demande au chef d'entreprise de s'adapter en permanence à son marché et ça génère, ce que vous disiez aussi un peu, forcément un peu d'épuisement, même si on va dire qu'ils sont habitués et qu'il y en a beaucoup qui aiment ça.
Isabelle Bernard, vous sentez cette nécessité de s'adapter en permanence? Vous avez repris une entreprise juste avant le Covid, hein, c'était fin 2019.
Exactement, oui. Donc l'adaptation est effectivement permanente. Oui, je pense que... Alors, bon, je peux pas dire s'il y avait plus de visibilité avant dans le monde du bâtiment, que je ne connaissais pas. Effectivement, voilà, les difficultés s'enchaînent, mais si on ne regarde que les difficultés, voilà, on arrête de faire ce que l'on fait. Je pense qu'il y en a toujours eu. Aujourd'hui, après avoir connu quand même une période assez faste, hein, un rebond extrêmement fort, même si le Covid a été compliqué, avec l'augmentation des matières ou des délais, il y a quand même eu un volume d'affaires qui a été extrêmement important. Et ben, on a aussi un tassement, un peu un retour à la normale qui se fait. Voilà, donc ben, il faut savoir s'adapter, à chacun de pouvoir être agile. Je pense que la clé va être là-dessus aujourd'hui, c'est de savoir. On a des enjeux aussi climatiques qui vont peser fortement, donc et qui touchent aussi nos entreprises. Le bâtiment neuf aujourd'hui, effectivement, ne va pas très très bien. On a une loi ZAN aussi qui est là pour faire que
zéro artificialisation nette des sols.
Voilà, des sols. Je vous laisse le dire, c'est plus facile. voilà, qui doit faire qu'on doit revoir aussi la manière dont on construit les villes, dont on rénove les villes. Nous, ça nous impacte. On est sur la rénovation. Donc effectivement, les entreprises du neuf aujourd'hui reviennent un peu plus sur la rénovation. Mais le secteur de la rénovation, qui est important parce qu'on a quand même un impact énergétique très fort et qu'il faut réduire, aujourd'hui, les acteurs sont là et on a des commandes et des chantiers, des marchés qui se font sur de la rénovation énergétique. C'est plutôt très bien.
À quelle perspective les carnets de commandes? Parce qu'on dit voilà, que le bâtiment est très touché. Est-ce que dans le second œuvre, on a quand même des carnets de commandes qui restent fournis?
Oui, alors... effectivement, ils ont un peu baissé, mais on avait des délais tellement longs qu'on avait l'impression d'avoir aussi des carnets de commandes très importants.
Pas habitué.
Voilà. Donc les délais sont revenus à la normale. Voilà, on est sur des carnets de commandes de 4 à 5 mois pour nous en termes de seconde œuvre. Un petit creux effectivement après l'été, mais au niveau du pro, c'est très très bien reparti. Là, on a énormément d'appels d'offres très court terme qui vont bien charger 2024. Les clients particuliers un peu absents depuis novembre jusqu'en octobre, c'était très bien, mais là sont très clairement tournés vers Noël.
Avec un paramètre nouveau quand même, c'est que vous le disiez vous-même, beaucoup d'entreprises qui travaillaient dans le neuf reviennent vers la rénovation, donc la concurrence s'accroît.
Oui.
Avec une baisse des
une concurrence sur les prix, une concurrence sur les prix extrêmement importante. On le voit bien. Donc des marges effectivement tendues. C'est vrai que les grosses entreprises ont refait leur marge. Je pense que les PME les ont nettement moins refaites et surtout celles qui sont très proches du client final. Donc ça a attaqué énormément les trésoreries et la santé des entreprises. Et la fragilité, ça reste des entreprises avec une forte fragilité, je pense, on en voit tomber et c'est peut-être pas fini.
Est-ce que certains ont osé, dans le secteur par exemple du textile, de l'habillement, ont osé répercuter justement les factures énergétiques et tout ça sur leurs produits? Est-ce qu'on a réaugmenté un petit peu nos marges comme ça sur le dos du client, malheureusement, mais c'est parce qu'il n'y avait pas le choix?
Alors, avant de vous répondre, je vais compléter un peu le propos aussi sur une lecture que j'ai qui m'interpelle beaucoup. C'est la grosse différence qu'il y a aujourd'hui en France entre un modèle à objectif ETI qui est politiquement fortement porté,
encouragé.
Et où en gros, beaucoup de dispositifs sont réfléchis, pensés et facilement accédant à des ETI qui sont de plus en plus robustes. Mais effectivement, un secteur de PME, TPE, du coup, qui se retrouve, en écart, en interrogation à la fois sur son modèle, qui se retrouve fragilisé, de mon point de vue, par la complexité administrative qui, excusez-moi du peu, ne s'est vraiment pas améliorée, et qui est impactée pour mon secteur, par exemple, par le financement de la qualification des salariés. Je m'explique. Le gouvernement a libéralisé la formation à un point où, en gros, l'entreprise est devenue centre de formation. En tout cas, ça a été juridiquement rendu possible. Sauf qu'on n'a pas regardé qu'on transférait à l'entreprise, en même temps, la charge de former. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes tendu, il manque du personnel, vous devez amputer votre personnel pour former des personnels entrants, des sachants. Et vous devez aussi, finalement, dans votre comptabilité, amortir cette dérentabilité. Mes industriels me disent couramment, il nous faut pendant 3-4 ans deux personnes pour remplacer la compétence d'une personne sortante. Quand vous mettez ça en boucle sur un bilan à proportion de 10% des salariés et que vous le faites de façon systématique tous les ans, forcément, ça impacte la compétitivité des entreprises. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, la compétitivité des PME est fortement exposée à cette complexité. On a fait une enquête avec l'ORSI. J'étais très surpris de découvrir un chiffre. C'est le doublement de la fonction administrative dans les entreprises. C'est-à-dire que globalement, il y a un chiffre qui tout d'un coup a pris les couturières, les maroquiniers de l'habitude, mais il y a un chiffre qui a pris un taquet incroyable, qui est passé de 4% de mémoire à 8%, qui montre que finalement la certification, la nouvelle normation, la délégation de traitement de beaucoup d'opérateurs qui renvoient aux PME, vous saisirez en ligne vous-même vos affaires, fait que d'un côté, il faut être compétitif et 4.0, et d'un autre côté, il y a une espèce d'antithèse, en tout cas, qu'on observe.
Alors, est-ce que pour rester compétitif, dans votre secteur, on a dû augmenter aussi les prix?
On peut pas toujours réimpacter le prix, parce que si vous réimpactez le prix énergie, 8% des salaires et 30% sur la matière première, vous avez un prix marché, un prix produit final marché, qui passe pas forcément. Donc, j'allais dire, ça se fait plutôt sur un rognement de marge pour rester dans le prix marché. Mmh. En général, c'est plutôt ce que j'ai pu observer. Mmh. À la marge, effectivement, des impacts de répercussion de prix. Mais aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression que les gens se serrent les marges pour rester dans leur position compétitive.
Maxime Turc, votre sentiment là-dessus ?
En fait, les entreprises l'ont fait quand elles l'ont pu. Donc, soit elles ont impacté leur marge, soit elles ont impacté leur prix. Mmh. De manière assez simple, c'est-à-dire que quand, en fonction de la concurrence aussi qu'il y a sur les marchés.
Ou les deux.
Ou les deux, tout à fait. On voit globalement une baisse, légère baisse des marges des entreprises, des PME qui n'ont pas pu forcément, effectivement, avoir comme on appelle ça, le pricing power en bon français, être en capacité d'aller voir leurs clients et leur dire, voilà, je monte parce que je peux pas, mais en fait, des clients qui pouvaient leur dire mais oui mais j'en ai d'autres qui montent pas ou j'en ai d'autres qui sont à des prix donc dans ces cas-là on peut pas, et donc derrière c'est vous mettez ça en plus avec l'inflation globale qui
se fait se poser des questions
et qui derrière demande permet aux salariés aussi de demander des augmentations de salaire, ce qui est bien légitime. Vous aviez parfois un effet ciseau qui était compliqué à gérer pour certaines entreprises.
Juste un mot sur l'inflation d'ailleurs, Flavienne Chadelot, est-ce qu'on a des perspectives sur les mois à venir ?
Mais oui, des bonnes perspectives. Oui, des bonnes perspectives. Parce que, alors, pour revenir quand même sur l'énergie, effectivement, toutes les entreprises n'ont pas pu répercuter, comme vous le disiez à l'instant, le coût de l'énergie dans le prix final de leurs produits. Par contre, elles le font avec décalage. Alors effectivement, c'est toujours un peu compliqué. Et surtout, ce qui a été très compliqué pour les entreprises, c'est qu'il a fallu souvent qu'elles se transforment en traders d'énergie et qu'elles se mettent sur des marchés qu'elles ne connaissaient pas pour essayer d'avoir un prix d'intrant le moins cher possible. Et ça, ça a été compliqué. Ça a été extrêmement compliqué psychologiquement aussi pour les entreprises. Et ça a été mangeur de temps pour ces dirigeants. Ça, c'est une certitude. Sur l'inflation, maintenant, je vous réponds. Les chiffres, donc, en cette fin d'année, c'est 5,7% d'inflation
au niveau moyen,
sur l'année. Mais en spot, à la fin de l'année, on est à 3,5%. Et c'est pour ça que le mandat de Banque centrale que nous avons restera, et on l'a bien dit, pour 2025, on sera autour de 2%. 2024, on devrait être autour de 2,5% en moyenne pour revenir progressivement dans ce mandat de 2% d'inflation. Donc oui, il nous reste maintenant le sujet des salaires parce que c'est forcément décalé. Et pour la première fois l'année prochaine, probablement avec les négociations, l'inflation sera inférieure à la hausse des salaires pour la première fois depuis sûrement assez longtemps.
Olivier.
Mathieu Billiard, vous êtes aussi dirigeant d'entreprise, on l'a dit tout à l'heure. Flavien Chabdeau a évoqué la question de l'énergie. Est-ce que la consommation d'énergie dans les entreprises, c'est un sujet majeur? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises travaillent sur un plan environnemental. Est-ce qu'elles travaillent aussi sur leur propre consommation d'énergie? C'est vraiment vital pour une entreprise aujourd'hui.
Le fait que l'énergie coûte cher, inévitablement, ça impose de se poser des questions. C'est-à-dire que tant que l'énergie coûte rien, les entreprises ne se posaient pas la question. Aujourd'hui, tous les industriels y réfléchissent et essaient de trouver des solutions. On a la même chose qui est en train de nous arriver, c'est avec l'eau. L'eau qui coûtait rien, qui était abondante, et on se rend compte que certaines industries, notamment agroalimentaires, ont été à deux doigts, et certaines dans d'autres zones de la France ont dû s'arrêter parce qu'elles ne pouvaient pas utiliser d'eau. Donc voilà, ces ressources qui nous paraissaient depuis longtemps inépuisables et bon marché deviennent aujourd'hui des vrais sujets pour les entreprises industrielles qui doivent se poser des questions pour diminuer leur consommation ou leur usage. Et on voit bien que de toute façon, dans le temps, ça va pas s'améliorer. C'est le sens de l'histoire. Donc, inévitablement, il faut aller sur ces sujets.
Et est-ce que ça marche, j'allais dire, les petites mesures qu'on arrive à mettre en place dans nos entreprises? Est-ce que ça compense, j'allais dire, les augmentations qui sont assez folles, d'énergie qu'on voit depuis quelques mois?
Non, malheureusement, ça compense pas. Et puis, il y a toujours cet effet de décalage. C'est-à-dire que l'augmentation, tout le monde se l'est pris du jour au lendemain.
Et pour mettre des mesures, ça prend du temps.
Oui, il y a des mesures qui sont assez faciles à faire, qui tout de suite enlèvent 10-15% de nos consommations, que ce soit en eau ou en énergie. Et ça, ça va assez vite. Mais la hausse est telle qu'après, c'est les investissements. Et ça va demander un petit peu de temps à se répercuter. Après, tout ce qui était photovoltaïque sur les bâtiments, ça ne valait rien. Souvent, quand on regardait, il fallait 15-20 ans pour essayer de rentabiliser les modèles. Avec le coût de l'énergie aujourd'hui, ça se passe sur 7 ans. Donc c'est des sujets un petit peu nouveaux pour les entreprises. Mais là aussi, on s'arrache un peu les cheveux pour retrouver ce qui va bien.
Qui sont pas non plus les investissements prioritaires des entreprises, non, entre guillemets, puisque elle investit plus dans son outil,
non,
à la base quand même.
Alors,
ça va devenir prioritaire,
bien sûr,
certainement.
Ça va avoir aussi un deuxième sens, c'est de décarboner une partie de l'énergie qu'utilisent les entreprises. Et notamment, je pense, dans le bâtiment. Demain, quand on livre un produit industriel, on va regarder le taux de carbone qui est utilisé pour faire son produit. Et finalement, si on arrive à avoir une partie de l'énergie qui est décarbonée, ça va être un argument pour les industriels de demain. Et on voit bien que les très gros ont commencé à attaquer ces chantiers-là.
Vous voulez réagir, Flavine Chabdeau?
Oui, tout à fait, parce que lors de la présentation de l'enquête demi-année qu'on a fait en région, là, en octobre, on avait posé cette question. En fait, dans les investissements des entreprises, en gros, quelle part était consacrée à l'investissement de croissance, à l'investissement de remplacement et à ces problématiques énergétiques? Pratiquement, c'était un tiers, un tiers, un tiers. Et là, c'est vraiment une prise de conscience de la nécessité d'être, économe de l'énergie et de l'eau prochainement, et il faut s'y mettre aussi. Et là, c'est vraiment, je veux dire, maintenant, les entreprises ont intégré ce sujet-là. Il n'en demeure pas moins que ça reste un sujet qu'il faut traiter, hein. Et de ce côté aussi, pour la Banque de France va être aidante auprès des entreprises, puisque peut-être le savez-vous, mais nous sommes en train de construire un indicateur climat pour coter les entreprises de ce point de vue-là sur trois domaines, la transition énergétique, le risque climatique et la gouvernance que ces entreprises mettent autour de ce sujet. Et ça permettra effectivement d'être un levier supplémentaire, au-delà de la prise de conscience, pour vraiment essayer d'orienter les entreprises vers des trajectoires plus bas carbone.
Comment vous appréhendez ce sujet-là, vous, Isabelle Bernard ?
On essaye de le faire, nous, dans nos choix pour TMA, de rester local, d'utiliser des menuiseries bas carbone de marque Technal. Enfin, voilà, ça faisait partie du projet. Je pense que c'est capital aujourd'hui. On parlait des crises qui se succèdent. Voilà, il faut absolument essayer d'anticiper au maximum. On sait très bien ce qui va à peu près arriver et l'adaptation qu'on va avoir à faire. Donc, c'est vrai que c'est difficile par rapport aux augmentation du prix de l'énergie et de l'eau, mais notre avenir va être imprégné de ça. Donc c'est dès maintenant qu'il faut s'y mettre pour que l'adaptation soit la plus douce possible.
Tout le monde s'y attelle aussi dans la métallurgie.
Totalement. Après, ça demande forcément des investissements qui sont lourds, donc ça prend du temps. Donc c'est des investissements aussi, comme vous le disiez, qu'on met pas dans l'appareil productif, ou alors qu'on met dans un appareil productif différent. Donc ça demande une grosse adaptation, des formations des salariés. Voilà, ça prend un peu de temps et ça ne compense pas la montée, la hausse forte qu'on a eue depuis ces dernières années. Après, aujourd'hui, et nous, UMM, on les accompagne notamment sur les sujets RSE globalement. Parce qu'on voit bien aussi, vous le disiez tout à l'heure, que dans les demandes des banques, dans les demandes des donneurs d'ordre, ça va être un sujet qui va monter aussi, ce qui est bien normal. Et donc, il faut effectivement que nos dirigeants apprennent, encore une fois, à s'adapter à cette nouvelle donne. Et il faut à la fois les y aider en tant que fédération et en même temps que ça prendre conscience que ça prend un peu de temps parce qu'on ne fait pas bouger tout un modèle aussi facilement que ça.
Alors vous parlez des salariés, Maxime Turc, il faut qu'on aborde quand même cette question-là. 2023 a été une année compliquée pour les entrepreneurs pour recruter, ce sera certainement encore le cas l'année prochaine. Il faut travailler sur l'attractivité des métiers, c'est essentiel, notamment dans l'industrie. Je voyais une statistique qui m'interrogeait il y a quelques jours sur l'industrie, c'est la capacité de production aujourd'hui, on a l'impression que nos industries tournent à trois quarts, quoi, parce qu'il n'y a pas assez de monde pour faire tourner les machines. Il y a un réel enjeu, il faut aller vite là, sur ces questions-là.
Par rapport aux projections qu'on peut se faire sur 2024, la bonne nouvelle, c'est que c'est le premier problème des industriels. Ça veut dire qu'il y a des commandes et qu'il y a une volonté, une capacité de produire. Maintenant, c'est effectivement comment on y répond. Et le premier problème, c'est trouver les compétences adaptées. Et donc, c'est qu'il faut faire.
C'est un problème de compétences ou d'attractivité ?
D'attractivité. Les compétences, on est en capacité de les avoir. On a des centres de formation, on a toutes les formations possibles et imaginables sur les différents métiers, même s'il y a des entreprises qui le font elles-mêmes, des choses comme ça, qui s'adaptent aussi à ces sujets-là. Maintenant, c'est comment effectivement on arrive à donner une autre image du travail dans l'industrie, parce que je pense l'image globale de l'industrie s'est largement améliorée, notamment depuis le Covid. C'est le travail dans l'industrie, le travail à l'usine qu'on doit maintenant améliorer pour attirer plus de monde.
Est-ce que Laurent Vandenborre, le secteur de la mode et du luxe, il manque aussi d'attractivité? Il n'attire pas les gens? Parce que vous disiez, il y a énormément de recrutement.
Moi, j'ai pas tout à fait la même analyse parce qu'en fait, aujourd'hui, depuis 10 ans, on trouve 1 millier de personnes tous les ans. Ça veut dire qu'on en a rencontré.
Mais il en manque encore.
Ça veut dire qu'on en a rencontré 10 000, hein, pour recruter une personne. On voit à peu près 8 à 10. Donc, ça veut dire que globalement, est-ce qu'on n'est pas attractif? J'en ai pas le sentiment, j'allais dire. Moi, par rapport à l'étude qui a été faite par l'ORCI, ce qui me soucie davantage, c'est l'offre. Je raisonne en offre-demande, hein, je suis de formation économique. C'est finalement comment l'outil de formation, j'allais dire régalien, est organisé en ayant pris conscience que former pour l'usine, c'est noble. Parce que finalement, on est dans un pays qui dit 4.0 campus d'excellence pour aller sur la Lune. C'est bien d'avoir cette ambition hyper technologique, bas carbone, nouvelles énergies, batteries, etc. Mais pour faire détourner des usines, il faut des opérateurs 4.0 et il faut aussi de la main. Nous, on a une activité un peu particulière qui est semi-industrielle, dans laquelle l'activité manuelle reste importante, sur laquelle il y a des carrières à faire. Et en fait, cette zone d'éclairage, elle n'est pas faite, en fait. Moi, je suis toujours perturbé entre l'upskilling, vous savez, les trucs un peu nouveaux, il faut élever le niveau, accord de Barcelone, il faut que tout le monde forme de la forme sup. Nous, on va chercher les gamins en classe de 3e, en CAP, pour essayer de les éclairer. Aujourd'hui, nos entreprises doivent s'occuper de 7 personnes sur 8 recrutements. Tous les 8 recrutements, un vient de l'école. Hein, sur 1500 ont besoin de personnes. Il y a 438 diplômés par an en région, dans notre secteur, tout niveau confondu. Nous n'en trouvons que 230 dans nos entreprises. 1500 moins 230 égale ce que les entreprises ont sur leurs bras. Moi, je pense qu'il y a quand même, au niveau et de l'orientation, quelque part, et d'une information de fierté de former pour l'usine, quelque chose à travailler et à corriger, de telle façon à ce qu'on récupère au moins la moitié de notre besoin industriel. Ce serait, moi, je ne connais aucune action de formation où si vous ne faites pas 75% de taux de placement derrière, vous ne retournez pas voir le financeur, il ne vous écoute pas. Donc, bon, j'ai l'impression qu'il y a un sujet, en tout cas, à travailler sur l'orientation et sur la fierté de former des opérateurs de fabrication. Cherchons un nom, etc. Mais, enfin, à un moment, on fera pas que des ingénieurs pour des ETI, quoi.
Votre regard là-dessus, Mathieu, Bilia?
Ouais, je partage complètement. Hein. C'est des sujets de temps un peu long. C'est-à-dire que je pense que l'image de l'industrie a été écornée depuis des dizaines d'années par des grands plans sociaux, par tout ce que l'on veut. Et effectivement, ressort aujourd'hui, au moment du Covid, en disant, on n'a plus rien. Et il y a une espèce de sujet qui était de dire, vaut mieux aller produire ailleurs que faire chez nous. Et là, je crois que c'est des vrais gros sujets forts parce que, en fait, on allait sans doute parmi les meilleures conditions de travail en Europe et sans doute au monde. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on n'est pas capable de le faire chez nous, on ne veut pas regarder ce que l'on fait et on l'envoie ailleurs.
Après, il y a des gens qui sont encore pas prêts à faire les 3-8 ou les 2-8.
Non, alors ça, c'est encore un autre sujet d'organisation. Mais ce que je veux dire, c'est que dans nos entreprises, dans notre industrie en France, on a cette capacité à avoir des belles carrières et de personnes qui rentrent en CAP jusqu'à des personnes qui peuvent à la fin diriger des entreprises. Donc il faut qu'on casse ce mythe, il faut qu'on casse aussi, on l'a souvent évoqué en rigolant parfois avec l'UIMM qui avait des locaux qui étaient dans le fond d'une zone industrielle. Mais c'est quoi? C'est des années en fait où on ose à peine se montrer en fait. Non mais il y a un peu de ça au fond. Et aujourd'hui le bâtiment qui a été refait, ça montre qu'on peut se former sur de l'industrie, sur de l'apprentissage, dans des beaux locaux, dans des bonnes conditions. Et ça je pense que c'est un travail fort à faire dans la durée. Et puis on a la même chose à faire aussi avec l'enseignement de nos jeunes au collège, au lycée, pour qu'ils découvrent que il y a pas que la partie générale sur laquelle on peut avoir des belles carrières et on peut s'épanouir. Et là, il faut que c'est aussi pour ça que je parle d'un travail de fond à faire dans la durée.
Olivier,
est-ce que dans l'industrie, quand c'est possible, hein, c'est peut-être pas possible dans le secteur de la mode, il n'y a pas des entreprises qui sont tentées de robotiser au maximum parce qu'on n'arrive plus à recruter et puis de se dire mais j'achète des machines, je mets un technicien ou deux pour s'en occuper et puis ma boîte tourne quoi.
Alors si forcément un peu, mais je ne tournerai pas ça comme ça. C'est-à-dire que c'est face au constat effectivement d'un déficit de main-d'œuvre que il y a une robotisation qui est effectuée et puis aussi d'une part de gains de productivité et puis souvent des métiers du coup qui sont différents qui sont proposés et sur lesquels on trouve plus facilement du monde. Donc on n'est pas à moins de monde, néanmoins c'est des métiers différents et c'est surtout des métiers différents et on gagne en productivité par ailleurs. Sans compter que, vous parliez des 3-8 tout à l'heure, typiquement, la robotisation parfois permet aussi d'éviter ce genre de situation. Encore une fois, les entreprises et les entrepreneurs s'adaptent à la situation qui sont face et sont obligés de trouver des solutions. La robotisation est quelque chose d'extrêmement positif pour la compétitivité de notre industrie. Néanmoins, elle remplacera jamais l'homme à l'usine.
Et puis, elle peut améliorer sérieusement la qualité de vie au travail.
Tout à fait.
Nous, finalement, si je vous fais un parallèle, nos opérateurs, opératrices, ils travaillent comme ces médecins qui, aujourd'hui, opèrent avec une assistance à intervention chirurgicale. quand on voit ce qu'il est possible de faire avec des robots en chirurgie, on se dit qu'en couture, il y a des choses magiques à faire qu'on est en train de travailler. Mais on est plus dans une logique de soulager, finalement, les gestes qui n'ont pas une haute valeur ajoutée, qui ont une certaine répétitivité, ou d'utiliser l'œil optique pour détecter des défauts, des choses de cette nature-là. Donc c'est plus un mixte entre les deux qu'un tout l'un tout l'autre, quoi, finalement.
Flavienne Chadeau.
Oui, je pense effectivement, comme vous le dites, que la robotisation, c'est aussi enlever de la pénibilité dans certains métiers de l'industrie plus ou moins lourde. Et ça contribue aussi fortement à avoir une attractivité sur ces métiers-là. Donc c'est aussi changer le prisme avec lequel on voit cette robotisation. Certes, ça fait de la productivité, mais les métiers qui sont gravitent autour du robot, je veux dire piloter le robot, c'est peut-être plus intéressant que lever effectivement les charges. Donc vraiment, tous ces sujets-là, ce n'est pas antinomique. Ils viennent tous dans un même sujet, c'est l'attractivité des métiers.
Isabelle Bernard, formée, recrutée, il y a une longue tradition de la formation dans le secteur du bâtiment. C'est difficile aussi pour des entreprises comme la vôtre de trouver, alors de recruter et puis de conserver des gens formés.
Oui, complètement. Ça a été un des enjeux très importants ces dernières années. On ne peut pas tout robotiser. On pose pas encore des fenêtres avec des robots aujourd'hui. Et je rejoins Mathieu sur le fait qu'il faut absolument valoriser très tôt ces métiers-là et qu'on tape beaucoup sur les entreprises et sur l'industrie ou sur voilà le travail tue. Non, pas tout à fait, pas toujours. Et peut rendre beaucoup de services. Donc oui, il n'y a pas que la filière générale et il est important qu'on insiste aussi sur ces métiers manuels dont on aura toujours besoin. On a effectivement des difficultés à recruter. L'autre problème qui est arrivé avec l'après-Covid, c'est aussi la volatilité des salariés et donc le maintien des process avec une rotation des salariés qui est beaucoup plus importante aujourd'hui. Donc à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui part, on perd quand même beaucoup en expérience et en expertise. Donc on passe notre temps à former. Et ça, pour moi, c'est un enjeu, je pense, qui est extrêmement important dans la stabilité, la pérennité des entreprises avec ces salariés qui aujourd'hui, ils ont le droit d'avoir envie d'aller voir ailleurs et de faire autre chose. Mais on peut se retrouver le bec dans l'eau rapidement.
Je vois l'heure qui tourne. On va parler justement de ces enjeux pour les mois à venir. On va se projeter sur 2024 juste après une courte page de pub. Je vous remercie Flavienne Chadeau d'avoir été avec nous. Je vous libère. Merci en tout cas.
Merci beaucoup. Au revoir.
Bonne journée à vous. On se retrouve dans un instant.
Message de Philippe Chopin, préfet de Maine-et-Loire.
Dans notre département de Maine-et-Loire, 32 personnes sont déjà mortes dans un accident de la route depuis le début de l'année. Un blessé sur 5 l'est par une personne alcoolisée ou sous stupéfiant. Ces drames auraient pu être évités avec des comportements responsables. Alors, je vous en conjure, si vous n'êtes pas en état de conduire, passez votre tour. Aucune bonne raison ne justifie de prendre des risques sur la route. Protéger votre vie, c'est aussi protéger celle des autres.
C'était un message de Philippe Chopin, préfet de Maine-et-Loire. Sécurité routière, tous responsables.
Chaque samedi, dans l'écho des solutions, Patrick Longchamp s'intéresse à une problématique économique et à ses solutions. Découvrez des entrepreneurs qui savent faire rimer croissance et bienveillance et vous feront aborder l'économie sous un angle nouveau. L'écho des solutions, c'est ce samedi à 14h et 23h.
Donnez la parole aux auditeurs. Renforcez la place de la prière. Vous informer en prenant du recul et en montrant les initiatives positives dans cette période particulière est primordial pour nous. Vous pouvez soutenir nos efforts en faisant un don. Rendez-vous dès à présent sur don.rcf.fr.
Une heure dédiée à l'économie locale avec Bastien Lallier sur RCF Anjou.
Et en compagnie d'Olivier Amar pour cette deuxième partie du Mageco, émission spéciale. Nous sommes ensemble pendant encore une vingtaine de minutes. On va tenter de se projeter à présent sur les mois à venir en essayant d'identifier les enjeux primordiaux pour le développement de l'économie du territoire en 2024. D'après une étude Ipsos parue avant-hier, les Français seraient les champions du monde du pessimisme économique. Moins de 1 sur 2 estiment que 2024 sera une meilleure année que 2023. Alors, les Français pessimistes, est-ce que les chefs d'entreprise le sont aussi, Mathieu Billard? Comment vous attaquez? Dans quel état d'esprit vous attaquez cette nouvelle année qui s'approche?
Je répondais tout à l'heure que sur septembre, le pessimisme n'était pas là et restait plutôt sur un moral plutôt haut. Sur l'année prochaine, c'est vraiment par filière. Je crois que sur le bâtiment neuf, tout ce qui est autour de la promotion, on voit bien que là, c'est très compliqué. C'est des chiffres qu'on n'a jamais connus, on est à moins 40. Et donc, bah, derrière, ça va enchaîner en cascade des sujets chez des industriels. Ça, c'est... Et alors, malheureusement, Fabienne est partie, mais vous posiez la question pourquoi on est là en ce moment. Mais c'est assez logique. Le premier niveau, c'était la réduction de l'inflation, donc augmentation des taux d'intérêt. Aujourd'hui, on emprunte à 4%. C'est pratiquement 25% de pouvoir d'achat en moins. Et vous rajoutez quasiment 25% d'inflation depuis le début du Covid, en moyenne. Bah, on arrive au moment, un espèce de palier où les gens attendent parce qu'on sait bien que ça va redescendre les taux là. Et donc, on est sur 2024. Sur une période sans doute pas dramatique, mais qui va être d'attention. C'est-à-dire que les gens vont regarder de prudence, de dire qu'est-ce qui va se passer, où est-ce qu'on va aller. On sent que les taux vont sans doute redescendre, peut-être sur fin 2024, sur 2025. Et donc, on a un risque ici d'attention. Et puis, donc ça, moi, je pense que le bâtiment, c'est vraiment un secteur où on est tous très attentifs. Et l'autre secteur qui nous interpelle, c'est le commerce de détail. Et on voit bien que là aussi le Covid a bouleversé la façon de... Il y a deux choses qu'on fait. La vente en ligne s'est vraiment inscrite dans les mœurs, avec aussi un service qui est assez bon, donc qui réinterroge comment on peut avoir une plus-value en boutique et tout ça. Et puis la seconde main qui s'est aussi développée. Et on voit des sites et des choses. Et quand on interroge aujourd'hui, on parle d'une vraie économie qui est en train d'arriver. Et qui là aussi rentre frontalement avec le commerce de proximité. Donc c'est vrai que c'est les deux gros endroits où aujourd'hui on a les plus grandes sources de préoccupation. Et puis à côté de ça, on voit des secteurs qui, parce qu'ils ont basculé, et je reviens sur le bâtiment, ce qui était des niches, par exemple de la construction bois, se porte très bien parce que on est porteur sur les enjeux de demain et donc ce sont des carnets de commandes assez forts, assez soutenus, là où c'était peut-être un petit peu plus réservé les années passées.
Isabelle Bernard, Mathieu Billard évoque des points de vigilance sur le commerce et le secteur du bâtiment. Comment vous l'appréhendez, vous, cette année 2024 dans votre secteur du bâtiment ?
Alors nous, sur la rénovation énergétique, qui est principalement notre activité, on a de fortes demandes. Les bâtiments tertiaires, que ce soit les industries ou les communes, rénovent. C'est un des points positifs de l'augmentation du prix de l'énergie. Les particuliers, on les sent effectivement attentistes, avec très clairement les taux d'intérêt qui ont mis un coup de frein. Nous, on est sur de la rénovation plutôt haut de gamme, donc pour l'instant, les particuliers sont un petit peu en pause. Donc nous, ce qui nous porte, c'est effectivement la rénovation des bâtiments et les économies d'énergie. Voilà, donc ce qui est plutôt positif en termes d'approche, quoi.
Maxime Turc, la fin d'année dernière pour les industriels était assez moyenne. Enfin, la fin de cette année était assez moyenne. Comment on appréhende l'année qui arrive et les mois qui arrivent ? Est-ce que le ralentissement va durer ou pas, le ralentissement de l'activité ?
Alors, encore une fois, ça va dépendre des différentes filières. Si on parle effectivement d'entreprises qui travaillent que sur l'immobilier neuf, j'en connais pas beaucoup.
Mais pour elle, c'est pas terrible.
C'est pas terrible, mais pour souvent qui est compensé par une partie de la rénovation. Si on parle avec des entreprises qui travaillent avec l'aéronautique et la défense, tout va bien et elles savent même pas comment aujourd'hui elles vont répondre à toutes les commandes qu'elles ont.
Oui, c'est un autre problème.
Donc c'est un autre problème. On est d'accord. On en a parlé un tout petit peu, mais on aura toujours ces problèmes-là et c'est positif. Ce sont ce qu'on dit souvent à l'échelle d'entreprise, c'est que ce sont de bons problèmes. Mais globalement, l'avantage qu'on a sur le Maine-et-Loire et sur le tissu industriel du Maine-et-Loire, c'est qu'on est très diversifié. On a surtout une activité de sous-traitance qui est très diversifiée selon les secteurs. Donc quand il y a un secteur qui va moins bien, il y en a souvent d'autres qui prennent le relais.
Et vous avez des vues sur les investissements des entrepreneurs ou pas ? Est-ce que vous savez si certains ont l'intention de profiter justement de cette nouvelle année pour réinvestir un peu ? Ou on est aussi là encore dans cette pause, cette prudence, on attend ?
Alors, on est surtout sur une période de pause, puisque là, on va attendre aussi les taux d'intérêt, qui forcément pénalisent aujourd'hui l'investissement. C'est clair que quand il n'y a pas si longtemps, il y a un an et demi, on empruntait à 0,5% et qu'aujourd'hui, on est plutôt à 4%, forcément, le coût de l'emprunt n'est pas le même et donc le coût de l'investissement n'est pas le même. Et la capacité d'investir est différente. Donc là, oui, on va forcément, globalement, avoir une petite pause sur 2024, en tout cas les débuts de l'année.
Laurent Vandenborg, le secteur de la mode et du luxe, vous disiez, se porte plutôt bien. Est-ce qu'on est dans la même dynamique à l'aube de 2024 ?
Moi, au-delà de faire une distinction par filière, je vais faire une distinction par profil d'entrepreneur. En fait, j'ai des entrepreneurs qui sont établis, qui n'ont plus de dette senior sur les bras, qui sont dans un développement, j'allais dire, où, quels que soient les vents et les marées, ils peuvent faire le dos rond et finalement, ils sont autonomes sur leur gestion de situation. Je suis très soucieux, moi, des reprises récentes, des jeunes qui ont une dette senior sur les bras, des entreprises aussi qui ont besoin, par exemple, qui changent de modèle. Je discutais avec un entrepreneur qui me disait, tu sais, passer en ligne, il y a ceux qui disent qu'il faudrait le faire. Passer en ligne, pour moi, c'est fabriquer du stock, c'est acheter du fil 2 ans avant. C'est donc finalement complètement bouleverser mon modèle. Et du coup, un des sujets qui va être, à mon avis, assez déterminant cette année, c'est la possibilité ou non d'accéder au financement de la vitesse de repositionnement et de croissance. Parce qu'en fait, le débat, en tout cas moi qui vient à mes oreilles, c'est celui-là. Là, quand ça frotte un peu ou qu'il y a un peu de position de, j'allais dire, de frein, c'est parce que les cotations sont renforcées, on l'a entendu. Le système d'appréciation va se renforcer avec des critères supplémentaires. Il faudra les détenir pour avoir accès, en gros, ou avoir accès à des conditions plus jouables. Et en fait, on demande aux entreprises de faire tout ça en temps réel. Nous, pour notre secteur, je voulais revenir là-dessus, on impose une loi AGEC 1er janvier 2025, interdiction d'enfouissement des déchets. On considère que Temu ou Shine ont la même capacité de mettre au marché que Royal Mail Bretagne, puisqu'on analyse la pénalité et la sanction ou l'imposition d'un étiquetage aux metteurs au marché, sans distinction finalement de la nature des metteurs au marché. Et on vit un espèce de paradoxe fou avec des modèles qui continuent de pousser concurrentiellement très fort et d'autres qui se retrouvent avec des charges accrues et l'obligation, finalement, pour garder leur position de marché, de surinvestir de façon massive, durable, pendant 2-3 ans, sur beaucoup de sujets. Donc la question, c'est si on a les reins pour le faire, on peut le faire. Si on n'a pas les reins pour le faire, ça va être compliqué, quoi.
Un mot sur les trésoreries dont on dit qu'elles se tendent ces derniers mois. Je lisais une enquête de la CPME qui interrogeait justement ses adhérents. 42% des patrons des TPE et PME interrogés se disent inquiets justement par rapport à leur trésorerie et leur chiffre d'affaires pour les mois à venir. Juste un détail sur le PGE, les prêts garantis par l'État. On a entendu que globalement ça allait bien. Et on a aussi des retours quand on va dans le détail, dans le micro, que ça pèse énormément et notamment pour les petites entreprises. Est-ce que vous avez des retours là-dessus, Mathieu Billard, justement? Où est-ce qu'on en est et est-ce que c'est une difficulté aujourd'hui pour nos entreprises de rembourser ces fameux PGE?
Alors quand on regarde ce qui arrive à la Banque de France en médiation, effectivement, c'est rien. Aujourd'hui, on parle de quelques dossiers à l'échelle du Maine-et-Loire. Donc ça, c'est ce qui est factuel.
C'est une bonne chose.
C'est une bonne chose. Maintenant, les entrepreneurs, quand ils en arrivent là, c'est qu'ils ont tout épuisé. Donc on voit aussi, on les connaît, ils cherchent par tous les moyens à rembourser cette dette qui pèse. Et dans certaines activités, et principalement les plus petites, ça devient un sujet problématique, puisque c'est juste un prêt qui a été fait, et donc à un moment donné, il faut le rembourser avec des marges dans les plus petits. Il y a un petit effet ciseau qui arrive en ce moment entre des marges qui diminuent parce qu'il y a les augmentations de salaire, parce qu'il y a les matières, et puis notamment dans tous les commerces qui étaient fermés. Avec en plus des activités, aujourd'hui c'est moins 20, moins 30, ça a été évoqué tout à l'heure, là ça devient très tendu. Donc après, ce qui n'est pas toujours connu, c'est qu'il y a des procédures ad hoc qui peuvent être mises
bien
en place.
Bien sûr, Rémi Douget vous en ferait la promotion s'il était sur ce plateau, le président du tribunal de commerce.
Mais qui permettent de manière discrète, sans qu'il y ait une ligne sur le CABIS derrière, de réétaler ce genre de sujet. Et là, j'invite tous les auditeurs qui nous entendent à ne pas hésiter à faire ce genre de procédure plutôt que d'arriver et que ce soit trop tard. C'est des choses qui doivent se faire par anticipation.
Dans le secteur de l'industrie, Maxime Turc, est-ce que voilà, vous entendez aussi parler de ces fameux PGE ? Est-ce que c'est une préoccupation ?
Alors très peu, enfin c'est surtout lié effectivement à l'activité. Ouais. Donc si l'activité se porte bien, le remboursement des PGE n'est pas forcément un énorme souci, j'ai envie de vous dire. Néanmoins, c'est clair que c'est une dette à rembourser, que la plupart, à ma connaissance, sans avoir fait d'études, l'ont remboursé chez nous. En tout cas, j'en entends très peu parler. Donc pour nous, c'est pas un sujet d'inquiétude particulier. Le sujet d'inquiétude, c'est plus effectivement ce dont on parlait tout à l'heure, qui est l'effet ciseau sur les trésoreries entre l'augmentation des charges globales et puis les difficultés à augmenter les prix.
D'accord avec ça également, Laurent ?
Oui, vous posiez la question, finalement, quel est le moral des troupes ? Moi aussi, ce qui me soucie, c'est qu'à partir du moment où le chef d'entreprise doit passer de son métier à un métier de pilote renforcé sur la trésor, voilà, on sent que ça crée une tension qui change un peu le plaisir de l'entrepreneur à faire son métier qu'il aime bien faire parce qu'il doit en faire un autre du coup qui prend trop de temps, trop de place, trop d'administration. Enfin, on voit bien que c'est finalement le déplacement du curseur vers la nécessité de gérer plus finement avec des effets d'accélération. Tu parlais aussi de vitesse, Maxime. Tout va à une vitesse dingue, en fait. On n'a pas évoqué tout à l'heure, mais l'impact des prix aussi, nous, dans notre métier, les conditions de marché, elles ont été conclues parfois un an avant dans les marchés publics et autres. Et vous revenez pas sur vos prix en découvrant votre facteur d'électricité ou votre obligation d'évolution sociale.
Isabelle Bernard, Laurent Vandenborg a évoqué la lourdeur administrative. Il y a tout un phénomène en ce moment où on veut simplifier les choses. Est-ce que cette lourdeur administrative, elle est encore pour vous, dirigeante d'entreprise présente ? Et puis, est-ce que vous y croyez à cette simplification ?
Mais il faut.
oui, est-ce qu'on peut faire pire ?
Oui, ça reste. Ça reste important. Et ce que Laurent a dit tout à l'heure, effectivement, sur l'augmentation de. Je ne connaissais pas les chiffres, hein, mais des charges, enfin, des emplois administratifs. Effectivement, aujourd'hui, avec l'usine 4.0, l'entreprise 4.0, on a reporté énormément de choses sur les entreprises, donc vous imprimerez, vous recevez plus les choses par les documents par courrier, c'est à vous de les imprimer et de les renvoyer. Vous vous enregistrerez sur le portail, vous voilà. Donc il y a effectivement faut de nouveau être agile et s'adapter, il y a une charge administrative qui reste très forte et qui est déportée et on peut pas se déporter à un moment donné quand on est près du consommateur, ça s'arrête chez nous quoi. Mmh.
Vous en attendez quelque chose de ces rencontres simplification, de la simplification, peut-être Maxime Turc, parce que voilà, c'est encore annoncé par le gouvernement qui dit qu'il va faire les choses bien en partant de la base cette fois. Est-ce que vous en attendez quelque chose ?
Ça tombe bien que vous posiez la question, puisque j'étais ce matin avant de venir au studio avec un député qui est particulièrement en charge du sujet en Maine-et-Loire, Philippe Bolo. Mm-hmm. Et donc on a fait une enquête rapide auprès de nos 275 adhérents qui nous ont remonté plusieurs éléments qu'on vient de transmettre effectivement matin aux députés. Donc, est-ce qu'on doit en attendre beaucoup ? J'avais aussi un ancien président de l'UMM qui me disait qu'il avait fait exactement la même chose avec ses parlementaires il y a quelques années. Donc oui, c'est un sujet important, c'est un sujet qui pèse sur les chefs d'entreprise. Maintenant, on attend que le gouvernement effectivement puisse mettre des choses en place, ce qui n'est pas toujours simple, soit dit, puisque c'est tout un système et parfois qu'il faut changer. Après, il y a deux trois choses qui paraissent assez simples à mettre en place. La clarification du bulletin de paie, le calcul des congés, la facilité de, une fois qu'on a dit quelque chose à l'administration, que l'ensemble de l'administration puisse y avoir accès. Ces différents éléments qui peuvent être simples parfois et qui pourraient être mis en place. Et il semble qu'il y ait une vraie volonté d'inventer ce sujet.
Et faire attention que quand on veut simplifier, on ne complexifie pas. Exactement. Davantage, parce que c'est souvent le risque, Mathieu Billard.
Effectivement, c'est souvent le risque. Alors, je crois que ces phénomènes de simplification, ils sont abordés tous les 3-4 ans par l'État, quelle que soit la couleur de l'État.
Et on a l'impression qu'ils n'y arrivent jamais.
Et qu'ils n'y arrivent jamais. Alors après, quand on regarde dans le détail, il y a quand même des choses qui sont remontées, qui sont faites. Alors, faut quand même reconnaître. Mais alors, en parallèle, il y a de nouvelles contraintes qui arrivent. Donc, on en a enlevé certaines, on en a recréé d'autres. Et en fait, ce qui fait drastiquement peur aujourd'hui, c'est que personne, mais je dis même personne, n'a la capacité de voir l'ensemble des normes qui existent.
Il y en a trop.
Il y en a trop, en fait. Et puis, c'est énormément siloté. Vous avez des normes environnementales, des normes de qualité, vous avez des normes.
Presque les entreprises n'ont pas participé à ça aussi pour se protéger quelque part. Dans, voilà, est-ce que...
Ah, je ne crois pas que ce soit les entreprises qui aient participé de ce niveau-là. Par contre, on a un principe de précaution poussé à l'extrême depuis quelques années.
Ça, c'est sûr.
Où un problème parmi des millions qui n'en ont jamais posé fait une loi qui s'impose à tous. Et ça, c'est une culture qui est arrivée depuis une vingtaine d'années chez nous et qui est dramatique. Enfin, pour moi, c'est dramatique. Et en plus, on voit des fois l'émotion politique de réagir à un fait et on recrée une loi. Et on recrée, et on recrée. Et ça, c'est une lourdeur qu'on n'a pas connue. Je fais un tout petit aparté pendant le Covid. Non, mais pendant le Covid, en fait...
On a simplifié.
On a simplifié énormément. Vrai, et il y a eu une créativité. Je regarde Laurent. Quand il a fallu créer des masques, quand il a fallu... Ouais. Tous les entreprises s'y sont mis à fond dans tous les sens. Il y a eu plein de choses
si,
de créer.
Même si sur la souveraineté, je m'étouffe un peu avec la fin du sujet.
Hein. Ah ouais, non, mais la fin, c'est un autre problème, effectivement. Mais on a simplifié l'accès, la créativité, tout ouais. ça. C'est une période un peu incroyable.
Si on raisonnait en mode économique, en fait... la simplification, ça devrait d'abord se voir dans les comptes de l'État, ça devrait se voir dans un abaissement de la fiscalité, parce que finalement, si la fin justifiait les moyens, ce serait celle-là qui serait la meilleure, et ça devrait pas se voir dans l'augmentation, en plus, du nombre de personnes en fonction administrative dans les entreprises. Faut aller chercher de la compétitivité, mais on doit prendre dans le bilan le financement de la formation professionnelle, la gestion de l'administration transférée pour partie au PME, et on ne fait pas le lien que tout ça, c'est des coûts qui viennent s'ajouter. On n'a pas évoqué un sujet sur la compétition énergétique aussi. Tout ça, c'est des facteurs de compétitivité aujourd'hui. Quand en Espagne et au Portugal, vous avez du KVA qui est à moitié prix du kilowattheure, qui est à moitié prix du tarif français, bah, vos compétiteurs, ils sont deux fois plus compétitifs que vous sur ce champ-là. On n'en parle jamais. Vous n'en entendez pas beaucoup parler. Or, tout d'un coup... Il faut avoir conscience aussi que toute cette normation, elle rebat les cartes de compétitivité aussi. Et moi, je trouve que pour l'instant, globalement, c'est un peu lourd pour les TPPME. Ouais. Les gens sont combatifs. On est dans une région où les gens sont combatifs, hein, se laissent pas abattre. C'est quand même une force. Mais voilà, il faudrait faudrait finalement avoir parfois des messages politiques plus concordants, enfin qui se perçoivent davantage. Même s'il y a eu des avancées hein, sur la fiscalité et autres, mais qui se perçoivent aussi dans le quotidien des entreprises.
Bon, il y aurait encore beaucoup de choses à aborder, notamment sur le plan de des rémunérations, de la masse salariale qui risque aussi de d'augmenter sur les prochains mois avec la réévaluation du SMIC. Je voudrais simplement, parce qu'il nous reste quelques secondes, faire un tour de table sur vos espoirs, vos attentes pour 2024 en quelques mots. Pourquoi vous vous levez encore le matin avec enthousiasme, Isabelle Bernard?
Parce qu'on est en vie, c'est formidable. Donc voilà, regardons le verre à moitié plein. On a traversé, ces 4 années, la tête haute. Et puis on tire des bords pour avancer. Et puis 2024 sera pleine de projets divers et variés. Et c'est pour ça qu'on se lève le matin. Soyons heureux, soyons heureux.
Mathieu Billiard.
Eh bien, alors, je suis d'accord, on est en vie, c'est déjà super bien. je crois que tout ce qui est en train d'arriver rebat des cartes. Et donc, il y a des formidables opportunités partout. Des choses qui étaient faites à l'étranger reviennent en France. Il y a une envie quand même des pouvoirs publics d'accompagner la réindustrialisation. Il y a cette envie qui est là. Et je crois que c'est source d'espoir et d'innovation.
Laurent Van Den Bord, vous vous levez toujours avec la même niaque le matin, comme ça?
Écoutez, la mode, j'ai découvert que la mode était en France, dans cette région, avait la part de l'industrie la plus importante, malgré tout ce qu'on vient de se dire et tout ce qu'elle a traversé. Donc oui, ça donne, j'allais dire, la banane en disant, allez, on va encore consolider ses positions. Et globalement, même si c'est difficile, il y a plus de, je trouve, d'espoir que de difficultés aujourd'hui.
Et le mot de la fin pour Maxime Turc, rapidement.
Bah écoutez, 2024 va encore être une année passionnante. Il y a plein de changements en cours et c'est un vrai plaisir de les accompagner avec les industriels tous les jours.
Merci en tout cas à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation. Isabelle Bernard, dirigeante de la société TMA Menuiserie, Mathieu Billiard, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Maine-et-Loire, également entrepreneur. Laurent Van Den Bord, délégué général de Mode Grand Ouest, et puis Maxime Turc, délégué général de l'Union des industries des métiers de la métallurgie de Maine-et-Loire. Merci beaucoup. Merci également à David Mainfroy à la technique aujourd'hui, à Olivia Marc qui m'accompagnait tout au long de cette émission. Le Mag Echo s'achève. Vous pouvez le retrouver évidemment sur notre site internet en podcast RC rcf.fr. On se donne rendez-vous l'année prochaine maintenant. Ce sera le 3 janvier, la prochaine émission. D'ici là, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année.